les vendredis à 14h sur les ondes de CIBL 101,5.
CIBL 101,5, Montréal.
Vivre Montréal.
Dans la radio communautaire, parce que les gens se sentent impliqués là, comme une espèce de longueur.
CIBL, au cœur de la vie citoyenne.
Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Angle Droit, votre rendez-vous hebdomadaire proposé par Éducalois et CIBL pour vous parler de droit autrement. Avec vous pour la prochaine demi-heure, Alexandra Galil. Et je ne suis pas seule en studio. Avec moi aujourd'hui, Isabelle Bourgeois, conseillère pédagogique et innovation, qui va nous parler des juristes et de la collaboration, c'est ça ?
Exactement. Comment ils sont, ces juristes ?
On va donc voir comment on travaille avec les juristes. Il y a aussi Marc-Antoine Harvé, avocat et vulgarisateur juridique, pour nous faire un petit quiz assez spécial, Marc-Antoine.
Salut Alexandra, on va faire un jeu questionnaire sur les jours fériés avec Pâques qui arrive.
Et notre invitée du jour est maître Sophie Gagnon, directrice générale de Juripop, avec qui nous parlerons des cliniques juridiques organisées dans le métro et du mois de la justice. Angle Droit, c'est parti. On débute avec le segment Actualité avec Valérie Thibaudeau, qui est gestionnaire de communauté et notaire. Bonjour Valérie.
Bonjour Alexandra, ça va bien?
Ça va très bien, merci. Et toi?
Bien sûr.
Alors, on annonçait il y a quelques jours que 9 poursuites civiles contre Gilbert Rozon feront l'objet d'un seul procès. L'ex-producteur et fondateur de Juste pour rire a déjà fait l'objet d'un procès criminel pour viol, accusation dont il a été acquitté en 2020. La même année, une demande d'action collective menée par une vingtaine de femmes qui ont affirmé avoir été agressées par ce dernier a été rejetée par la Cour suprême. C'est ta première nouvelle. Quelle est la différence entre tous ces recours, dis-moi?
Ben, c'est une bonne question, Alexandra. Donc, un procès criminel, c'est quand l'État poursuit la personne qui est accusée. Donc, elle est présumée innocente jusqu'à preuve du contraire et il faut faire une preuve hors de tout doute raisonnable qu'on dit. Donc, c'est-à-dire que la Cour doit être convaincue qu'il est plus que probable, voire même absolument certain, là, que la personne accusée a commis le crime. Si elle est déclarée coupable, cette personne-là va avoir à faire face à différentes sanctions. Ça pourrait être, selon le cas, des travaux communautaires, des amendes, de l'emprisonnement. Tandis que pour un procès civil, là, le but, c'est de régler des problèmes entre les personnes. Donc, par exemple, tu pourrais demander au tribunal de reconnaître qu'une autre personne est responsable d'un tort que tu as subi. Un procès civil, ça peut être fait sous forme d'action collective, quand les personnes impliquées dans une demande ont une situation qui est semblable. Mais une action collective, ça doit d'abord être autorisé par le tribunal. Et au civil, ben, c'est pas nécessaire de prouver hors de tout doute raisonnable. Ça va plutôt être par prépondérance de preuves qu'on appelle. Donc, faut prouver que sa version des faits est plus probable que moins probable. Autrement dit, la Cour va généralement donner raison à la partie qui est la plus crédible.
Et dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé dans le cas qui nous préoccupe, celui de Gilbert Rozon?
Oui, ben, dans ce cas-là, il y a eu un procès au criminel. Comme tu l'as dit, la personne a été acquittée en décembre 2020 pour des accusations de viol et d'attentat à la pudeur qui pesait contre lui, en lien avec des événements qui étaient survenus il y a plus de 40 ans. Dans son jugement, la juge, alors, elle avait souligné que le gouvernement n'avait tout simplement pas réussi à prouver la culpabilité de l'accusé hors de tout doute raisonnable et que ça signifiait pas pour autant qu'elle ne croyait pas la victime. Il y a eu une action collective aussi, comme tu l'as mentionné, d'un groupe d'une vingtaine de femmes qu'on appelait les courageuses. Elles ont demandé une autorisation de poursuivre M. Rozon par action collective et la demande a été refusée en cour d'appel et la Cour suprême a ensuite refusé d'entendre le dossier. Donc, le dossier des 9 présumées victimes les dossiers qui viennent d'être joints, dans les poursuites civiles dont on parlait cette semaine n'ont pas été spécifiquement analysés par la Cour auparavant.
La seconde actualité, Valérie, au Québec, la fin du mois de mars, coïncide avec une date importante en matière de logement.
Oui, tout à fait. Donc, pour les baux qui se terminent le 30 juin prochain, la date limite pour envoyer un avis de modification de bail, incluant l'avis pour augmenter un loyer, c'est le 31 mars. Il reste donc juste quelques jours, là.
Alors, qu'est-ce qu'un avis de hausse peut être... Alors, d'abord, excuse-moi, est-ce que l'avis de hausse peut être fait de n'importe quelle façon?
Ben non. Il doit indiquer le montant du nouveau loyer proposé ou l'augmentation en dollars ou en pourcentage par rapport au loyer en cours. Il doit aussi indiquer le délai accordé au locataire pour refuser l'augmentation de loyer proposée et toute autre modification demandée. Il faut aussi qu'il soit dans la même langue que le bail et il doit être envoyé à l'adresse du locataire qui est inscrite dans le bail.
Qu'est-ce que ça change si l'avis n'est pas conforme à la loi, dis-moi?
C'est du cas par cas, mais généralement, pour que l'avis soit déclaré nul par le tribunal administratif du logement et donc que le proprio n'ait pas droit à sa hausse, ben il faut que le locataire ait subi un dommage à cause de la non-conformité. Et le locataire, il doit aussi être de bonne foi, c'est-à-dire qu'il n'avait pas l'intention de profiter de la situation.
On passe à la troisième actualité. Parlant de hausse, on apprenait dans le Journal de Montréal que le nombre d'entreprises qui font face à la faillite au Québec a augmenté de 44 % en un an. C'est d'ailleurs un texte d'Éducalois à ce sujet. Qu'est-ce que la faillite et est-ce que c'est la seule solution, pardon, au surendettement?
La faillite, non, c'est pas la seule solution au surendettement. Selon la situation, ça peut être possible de tenter de négocier une entente avec les créanciers pour modifier les délais et les montants des paiements en fonction de son budget. On peut aussi essayer de faire une consolidation de dette auprès d'une institution financière. On peut s'inscrire au dépôt volontaire au greffe du palais de justice le plus près ou consulter un syndic de faillite, faire une proposition de consommateur ou en dernier recours déclarer faillite. Donc là, tous ces termes-là sont assez techniques. Puisque le temps commence à nous manquer, je vais vous référer en fait à notre dossier « Gérer vos finances et surmonter les difficultés financières » qui est disponible gratuitement sur educalois.qc.ca. Il a été réalisé grâce à la collaboration financière du Fonds d'accès à la justice du ministère de la Justice du Québec. Et on a aussi récemment, donc jeudi le 21 mars, publié dans le Journal de Montréal un article qui est intitulé « Que faire quand votre employeur fait faillite? » Donc, ça, on peut rester à l'écoute pour la suite de l'émission également.
Merci pour ces informations, Valérie. Je rappelle que tu es notaire et gestionnaire de communauté chez Éducalois. C'est le moment de l'entrevue. On continue à discuter du mois de mars, qui est le mois de la justice. 31 jours consacrés à la justice à travers différentes actions de sensibilisation et d'information. Avec nous en studio, Maître Sophie Gagnon, directrice générale de Juripop, un organisme qui n'a plus tellement son nom à faire et qui propose notamment des cliniques juridiques dans le métro. Maître Gagnon, bonjour.
Bonjour Alexandra.
Merci d'être avec nous.
Ben, merci de m'inviter, ça me fait plaisir d'être ici.
Alors la première des questions qu'on peut se poser, pourquoi choisir le métro et pourquoi partir à la rencontre du public depuis 2015 hein?
Voilà, alors Juripop, notre mission comme Éducalois d'ailleurs, c'est d'améliorer l'accès à la justice. Et on se donne la mission d'aller à la rencontre des citoyens, des citoyennes qui sont les plus vulnérables, qui se trouvent en marge de la société, qui ont tendance à tomber entre les mailles de notre filet social. Donc, des personnes qui vont pas avoir tendance ou qui vont pas avoir accès, par exemple, à des contenus préparés par Éducalois ou qui penseront pas à aller cogner à la porte des centres de justice de proximité. Donc, le métro, c'est pour nous le lieu de prédilection où entrer en contact avec ces personnes-là alors qu'elles se déplacent pour se rendre au travail, à la maison, ont cherché des enfants à l'école. Et ça fait près de 10 ans, donc depuis 2015, qu'on tient ces consultations gratuites. Et puis cette année a encore une fois témoigné de la nécessité d'une initiative comme celle-là.
Alors, la question qu'on peut se poser, c'est que vous demandent ces personnes exactement comme enjeu ou comme question juridique? Quelles sont leurs demandes hein, quand ils voient des avocats dans le métro?
Ce sont des questions excessivement variées, puis donc on a des avocats, on a des notaires aussi qui reçoivent à chaque année environ une question sur quatre. Moi, j'y ai été bénévole il y a 2 semaines environ, puis j'ai reçu vraiment une très grande variété de questions. Je vous en donne des exemples. Il y a une personne qui est venue me voir parce qu'elle s'était fait retirer une dent de sagesse par son dentiste et que 2 ans plus tard, mais après l'opération, elle avait développé une infection puis des douleurs. Et 2 ans plus tard, elle se demandait, est-ce qu'il est trop tard pour faire valoir mes droits? Puis, s'il n'est pas trop tard, à qui est-ce que je peux faire valoir ces droits-là? Alors, avec elle, j'ai pu faire la liste des différents recours qui sont à sa disposition, entre autres, appeler l'ordre professionnel, voire envoyer une mise en demeure pour voir si on ne peut pas trouver une solution négociée. On parle de consultation d'une durée d'une 15aine de minutes. Évidemment, je ne suis pas en mesure de lui fournir des conseils juridiques détaillés ou de lui confirmer les chances de succès, mais je peux lui dire que non, 2 ans, ce n'est pas trop tard pour faire valoir ses droits. Et je peux la référer à des ressources qui peuvent l'accompagner. On a reçu cette année énormément de questions aussi en droit du logement. Puis on constate depuis l'après-COVID un nombre vraiment important de nouveaux arrivants, de nouvelles arrivantes qui viennent nous voir dans le métro avec, oui, des questions liées à leur statut d'immigration, mais aussi des questions du quotidien liées au droit de la famille, au droit du logement, au droit du travail. Donc, une très grande variété de questions qu'on reçoit dans le métro.
Alors, comment vous percevez la réaction du public quand cette dame, justement, qui avait son problème de dent de sagesse, est-ce qu'elle était plus rassurée à l'idée de vous entendre, justement, parler de solutions?
Tout à fait. Les gens sont vraiment reconnaissantes de pouvoir parler avec des juristes qui sont accessibles, puis accessibles pas juste financièrement, mais tu sais, qui sont dans le métro, on porte des habits un peu plus décontractés, puis ça aussi, ça permet d'enlever une barrière à l'accès à un professionnel ou à une professionnelle du droit, donc les gens sont très rassurés. Il y en a certaines qui viennent nous voir parce qu'on les attrape pendant un déplacement, puis ils ont une question juridique en tête, mais il y en a d'autres, Alexandra, qui viennent nous voir préparer avec des documents, un dossier qui les elles ont monté au fil des ans, puis c'est la première fois qu'ils viennent parler avec un juriste. Puis pour des personnes comme ça, ça peut les conforter dans les démarches qu'elles et elles vont décider de prendre par la suite. Puis on peut aussi les référer vers des ressources qui sont là à longueur d'année. Donc, dans le métro, on a d'ailleurs un kiosque d'Éducalois, un autre kiosque des centres de justice de proximité, et on a vraiment tout un bottin de références auxquelles on peut référer les personnes. Moi, j'ai souvent eu des gens qui sont venus me voir parce qu'ils craignaient qu'une personne âgée de leur entourage fasse l'objet d'exploitation, d'abus financiers. Et puis, il y a peu de personnes qui savent que la Commission des droits de la jeunesse, la Commission des droits de la personne et de la jeunesse offre un service d'enquête, un service d'information pour protéger les aînés de l'abus. Donc ça, c'est un exemple de référence très efficace qu'on peut faire en une 15aine de minutes dans le métro de Montréal.
Alors Sophie, on a parlé tantôt du fait que certains domaines de droit étaient plus populaires que d'autres. Depuis 2015, j'ai sous les yeux les statistiques. Depuis 2015, on se rend compte notamment qu'il y a plus de droits civils, droit familial. On pose aussi beaucoup de questions qui concernent des questions en fait notariales. Comment on explique cette importance dans certains sujets?
C'est une bonne question de savoir qu'est-ce qui crée des tendances. C'est sûr que depuis 2 ans, comme je le mentionnais, les 2 grandes tendances qu'on a vues, c'est l'augmentation des demandes en droit du logement et la présence de nouveaux arrivants, nouvelles arrivantes dans le métro. Et puis ça, c'est une conséquence, à notre avis, de l'augmentation du coût de la vie. Puis on voit que les tendances socio-économiques vont aussi se refléter dans les questions d'accès à la justice. Il y a une crise du logement, ça fait en sorte qu'il y a un plus grand nombre de personnes qui vont recevoir ou qui vont avoir un intérêt à contester les avis qui leur sont transmis de la part du propriétaire. Beaucoup plus de personnes avec des statuts migratoires, des personnes qui n'ont pas la résidence permanente ou la citoyenneté, ça vient avec des questions juridiques. Alors, une très grande variété. Puis, j'aimerais ça vous parler des questions qui concernent les notaires aussi, parce qu'on a trop souvent tendance tendance à penser que les notaires sont là seulement pour faire un testament ou une transaction immobilière, mais les notaires sont vraiment les conseillers juridiques du quotidien. Puis dans le métro, on se pose beaucoup de questions aussi concernant les successions. Puis les successions, ça peut être... c'est des moments humains qui ne sont pas toujours faciles.
On parle de testament, on parle de...
Donc, après le décès d'un proche, il y a une personne qui va être nommée pour liquider la succession. Puis quand c'est un proche qui est le liquidateur plutôt qu'un notaire, ça peut engendrer plein de problèmes. Des personnes viennent nous voir parce que ça fait 2 ans que la succession est ouverte. Puis ils se disent, mais mon Dieu, quand est-ce que ça va finir, cette affaire-là? Est-ce que moi, comme héritier, héritière, j'ai un recours à faire valoir contre le liquidateur? Ou si la liquidatrice est en conflit d'intérêts puis a pris une décision avec laquelle je suis en désaccord, qu'est-ce que je peux faire? Là aussi, les notaires peuvent venir en aide. Donc, on voit qu'on peut vraiment accompagner les gens sur une très grande variété de questions du quotidien.
Justement, la prochaine date de clinique juridique, ce sera dans le métro Place des Arts à Montréal. C'est ce jeudi 28 mars de midi à 18h. C'est bien ça?
Voilà où nous trouver. Et puis, on a des super cubicules accompagnés de nos amis des autres organismes qui tiennent leur kiosque. Alors, vous ne nous manquerez pas et ça va nous faire plaisir de vous accueillir.
Merci beaucoup, Maître Gagnon, d'être venu en studio pour nous parler de ces cliniques juridiques. On se retrouve très bientôt pour aborder d'autres sujets qui concernent Juripop.
Certainement et excellent mois de la justice à tout le monde.
Merci. Chez Ducalois, nous sommes une équipe de divers talents avec des professionnels issus de différents domaines. Mais ce qui domine, évidemment, le nom le dit, c'est la présence des juristes, qu'ils soient avocates, avocats ou notaires. Et travailler avec des juristes, Isabelle, c'est bien particulier, n'est-ce pas?
Tout à fait. En fait, je travaille depuis 5 ans chez Éducalois. Je ne suis pas juriste. J'ai une formation en éducation et un peu en anthropologie. Puis j'ai décidé aujourd'hui de parler d'un phénomène social particulier, les juristes.
Ah!
Oui. Donc, à l'avance, je m'excuse, il va y avoir des généralités, mais c'est vraiment fait avec plein de bienveillance. À partir de mes observations, des données collectées comme non-juriste dans le monde du droit dans les 5 dernières années. Bien sûr, c'est une chronique qui est faite avec beaucoup de complicité et d'amitié pour mes collègues juristes d'Éducalois, mais je me suis dit que ça pouvait peut-être aider aussi le public à mieux comprendre comment on travaille, comment on communique avec les juristes.
Alors, dis-nous tout, Isabelle, qu'est-ce que tu as observé au cours de ces 5 dernières années?
Alors, premièrement, les juristes, ils sont très minutieuses et minutieux. Quand je suis arrivée chez Éducalois, mon premier mandat a été d'écrire la définition de l'éducation juridique. 17 versions. Ah. C'est beaucoup. Je savais pas, moi, qu'on pouvait passer autant de temps pour discuter de où est-ce qu'on met une virgule dans une phrase. Également, les juristes sont très studieuses et studieux. Quand on arrive chez Éducalois, on passe un test psychométrique, puis il y a environ 17 personnes sur 30 qui sont des studieuses, et la plupart sont des juristes. Donc, beaucoup de plaisir pour eux à analyser, à étudier. Parfois, ça m'étonne toujours de voir tout leur enthousiasme à lire en détail des jugements. Je comprends plus ou moins. Également, les juristes aiment le débat. Donc, le débat qui perdure chez Éducalois, c'est est-ce que le hot dog est un sandwich? Mais ça fait 5 ans qu'on essaie de le définir. On a même défini des critères. Mm-hmm. Et chaque situation chez Éducalois peut être un sujet à débat social et à débat sémantique. Également, les juristes ont un très grand sens de la responsabilité, donc qui est fortement lié à leur responsabilité professionnelle de ne pas induire en erreur. Mais ça crée une grande précaution dans leur façon de travailler, toujours être sûr de donner l'information qui est fiable, qui est précise. Il y a même un stress parfois que je ressens chez eux quand, par exemple, ils n'utilisent pas le bon terme, le terme le plus récent. Donc, par exemple, on allait donner une formation, puis le terme greffier audiologique audiencier venait juste de changer pour paratechnicien judiciaire. Je n'avais jamais entendu ces deux expressions de ma vie.
Et bon, là, ce sont les traits de personnalité. Est-ce qu'il y a d'autres observations et qu'est-ce que, qu'on peut dire de la manière de communiquer?
Oui, bonne question. Les juristes, ils donnent beaucoup, beaucoup d'explications, beaucoup de détails. Comme pédagogue, j'ai eu à les accompagner, par exemple, pour donner des formations. Donc, je me rappelle une formation sur les testaments d'environ 92 diapositives pour une heure. Et c'était beaucoup, pour moi, trop d'informations. Puis je me disais, les personnes qui étaient à cette formation ne devaient pas retenir, finalement, beaucoup d'informations. Également, ils utilisent un jargon juridique. Donc, on parle souvent de malédiction du savoir. C'est pas facile de s'éloigner du vocabulaire qu'on a appris à l'université, dans l'école du barreau, dans le milieu du droit également. Donc, ils parlent un langage particulier entre eux. Et il y a aussi des expressions qui sont bien à eux. Donc, l'expression « ça dépend », vous allez l'entendre très, 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 très souvent. Également, « je reviens du palais », donc ils ne reviennent pas d'un château de princesse, mais ça, c'est un tribunal, le palais de justice. Aussi, le délai de prescription. Donc, je ne comprenais pas trop c'était quoi le lien avec la pharmacie au début. Donc, ça, c'est un autre terme. Et « ad hoc », ça n'a rien à voir avec le capitaine ad hoc dans Tintin.
Et donc, ça, ce sont des observations très, très intéressantes et qui font rire plusieurs personnes autour de la table. Est-ce que ces observations peuvent servir les personnes qui nous écoutent?
Oui, quelques petits trucs. Premièrement, dites-le quand vous ne comprenez pas, quand un juriste vous explique quelque chose. Il aime mieux savoir que vous ne comprenez pas plutôt que de vous laisser partir confus ou frustré. Vous pouvez leur demander aussi d'avoir des exemples. Donc, de leur demander des exemples, ça les oblige à simplifier un peu leurs propos. Moi aussi, ça m'arrive souvent de leur demander de résumer les prochaines étapes. Donc, est-ce que vous pourriez m'expliquer concrètement c'est quoi les prochaines choses que je dois faire, c'est quoi les prochaines étapes pour moi? Un autre point également, c'est de leur demander du matériel pour vous aider à mieux comprendre. Donc, souvent, ils peuvent vous référer, vous guider vers des ressources. Puis, mon dernier point serait de peut-être, avec les juristes, de faire preuve d'empathie. On dit souvent traiter les autres comme on aimerait se faire traiter. Donc, les juristes, c'est des humains. C'est des humains qui vivent beaucoup de pression aussi, qui ont à travailler dans un cadre qui est quand même assez rigide. Puis, il y a d'ailleurs le rapport CADU sur la santé psychologique des professionnels du droit qui a montré les enjeux de santé mentale que pouvaient vivre les juristes. Donc, n'hésitez pas à faire preuve de beaucoup d'empathie aussi avec les juristes. Puis, je prends mon dernier mot pour dire que c'est des personnes qui ont leur métier très, très, très à cœur. Alors, je leur envoie de bons mots, beaucoup d'empathie et tout particulièrement pour mes collègues juristes chez Éducalois.
Merci beaucoup, Isabelle, pour cette chronique douée d'humour, de bienveillance. On dit bonjour, évidemment, à l'ensemble de nos collègues juristes d'Éducalois. Et d'ailleurs. C'est le moment préféré de l'émission, donc tous les micros sont ouverts, toute l'équipe est au micro. Bonjour tout le monde, vos micros marchent bien?
Ça fonctionne.
Alors Marc-Antoine, tu voulais nous proposer un quiz pour cette période de la semaine?
Oui, Alexandra, et en réponse à ma collègue Isabelle, les juristes peuvent aussi avoir du fun!
Yeah!
Alors, les règles du jeu aujourd'hui, je vais vous poser des questions, c'est des vrais ou faux, OK? Vous allez répondre à tour de rôle et on compte les points. Les avocats veulent aussi gagner.
Ouais, mais là, moi, je suis studieuse puis j'ai pas étudié.
Voilà. On commence avec ma première question. Comme on avait dit, Alexandra, c'est sur les jours fériés avec le congé de Pâques qui arrive jeudi et vendredi prochain.
Alors, c'est parti. La première question.
Votre employeur doit-il vous offrir le vendredi et le lundi de congé?
C'est faux.
C'est faux, Isabelle? Alexandra?
Je dirais que c'est vrai.
Vrai?
Non, c'est pas vrai.
Faux et?
J'y vais pour faux aussi.
Faux, on a trois faux, un vrai et la réponse est faux. Non, il n'est pas obligé de le faire votre employeur pour Pâques. Le choix du jour férié revient à l'employeur. Il peut choisir le vendredi ou le jeudi, bien sûr. Il peut vous offrir les deux jours de congé si vous êtes chanceux.
Ouais, comme Éducalois, là.
Oui, et particularité, le jour de Pâques, le dimanche, n'est pas un jour férié, légalement parlant.
La prochaine question, Marc-Antoine.
Votre employeur doit-il vous payer à temps double lorsque vous travaillez le vendredi saint ou le lundi de Pâques?
Hey, je pense que non.
Est-il obligé? C'est une question légale. Est-ce que le obligé est important? Donc, Sophie dit faux.
Je crois qu'Isabelle a dit tout à l'heure qu'il fallait toujours répondre « ça dépend ».
Ça dépend.
C'est possible.
Moi, je m'abstiens.
Abstiens. Ah, ça va t'enlever un point. Et Valérie?
Je sais plus si c'est temps double ou temps et demi ou c'est peut-être rien. Je sais pas.
La meilleure réponse, c'était Alexandra. Ça dépend. Ah! Mais on peut dire que c'est faux puisque l'employeur, s'il vous demande de travailler alors que le jour est férié, il a le choix. Donc, il doit vous payer les heures normales de votre travail et ensuite vous donner une compensation. Ça peut être du temps, ça peut être une journée de congé et ou, en fait, ou une compensation financière. Donc, c'est la subtilité, c'est soit une journée de congé ou du temps. Donc, l'expression « temps double » vient du fait de recevoir une compensation monétaire.
C'est très intéressant. On passe à la prochaine question, Marc-Antoine. Là, tu voulais nous parler d'argent.
Oui, l'argent, sujet très intéressant. L'indemnité en argent qu'on vient de parler lorsqu'on doit travailler à Pâques dépend du salaire qu'on a eu pendant les trois derniers mois. Vrai ou faux, Sophie?
Hey, encore moi en premier. allons-y pour un vrai. Me semble pour les employés à temps partiel, justement, on se casse toujours la tête avec ça.
C'est
puis on
une
se réfère.
Bonne piste.
En
tout cas, Isabelle?
Moi, je vais te dire vrai, mais juste en copiant Sophie.
bonne intuition, Valérie.
Ouais, moi aussi, je voulais copier Sophie. Là. Au pire, on dira que c'est la faute à Jury Pop si on n'a pas raison. Hey, non, c'est une farce.
Alexandra, j'imagine que tu dis vrai aussi?
Non, je m'abstiens.
Hey, vous avez raison, vous êtes très bonne. La réponse, c'est vrai. L'employeur doit vous payer, il doit vous payer ce que vous faisiez durant les quatre dernières semaines. Ça correspond à 1 sur 20 du total que vous avez fait durant les quatre dernières semaines. Donc, si on a travaillé à temps partiel, le casse-tête commence. Il faut alors faire le calcul de ce fameux 1 20e.
Et la question bonus pour finir, Marc-Antoine.
Alors, il y a 8 jours de congés fériés prévus par la loi. Combien pouvez-vous m'en nommer sur 8?
Oh mon Dieu.
Qui dit mieux?
Mais c'est pas un vrai ou faux, ça?
Non, c'est pas un vrai ou faux. C'est...
Il y a la veille de Noël.
Oh, comment tu penses en nommer? 6?
Oui, j'allais faire la liste.
7?
Disons 6.
6? Isabelle, tu penses en donner combien?
Ben, moi, je pense que je suis capable de donner les 8. Les 8? Je connais mes congés.
OK. Qui dit mieux? OK, on t'écoute, Isabelle. Vas-y, pour la victoire.
La veille de Noël.
Ouais.
Le jour de l'an.
2.
Le vendredi saint. 3.
Pâques. Ouais, Pâques.
Fête nationale, fête du Canada, fête du travail, ensuite...
Noël!
Action grâce, Noël! Bravo, vous avez été très bonne. Félicitations.
Alors, on rappelle quand même la bonne information. Le 1er janvier, le vendredi saint ou le vendredi de ou le lundi de Pâques, le lundi avant le 25 mai, le 24 juin, le 1er juillet ou le 2 et le 1er, si c'est un dimanche, la fête du Canada, le 1er lundi et la suite est sur le site d'éducalois.qc.ca. Marc-Antoine, c'est bien ça?
Oui. Oui, merci beaucoup.
Et joyeuse Pâques.
Alors, vous l'entendez, c'est déjà la fin d'Angle Droit. Si vous avez des questions, si vous souhaitez nous proposer des sujets, écrivez-nous angledroit@commercialeducalois.qc.ca et on rend l'antenne tout de suite. À très bientôt du côté de CIBL 101.5.
Salut, mon nom est Sylvain. Je suis un préposé au renseignement, organisé et consciencieux.
Si Sylvain n'a pas mentionné qu'il est paralysé, c'est que ça n'a aucune incidence sur son emploi. Ne laissez pas un handicap vous définir. Joignez-vous à la fonction publique. Travaillez pour le Québec, plus qu'une carrière. Un message du gouvernement du Québec.
Vous cherchez une activité ludique et rassembleuse? Inscrivez le Bingo Radio de CIBL à votre agenda. Chaque semaine, courez la chance de gagner 3 500 $ en prix. Invitez vos amis et jouez avec nous tous les dimanches dès 13h. Pour participer, procurez-vous les cartes de jeu du bingo de CIBL dans un point de vente près de chez vous. Pour trouver des lieux, visitez notre site web au cibl1015.com sous l'onglet Bingo Radio de CIBL. À dimanche prochain et bonne chance!
Excusez-la est une émission dédiée à la musique, la chanson, la danse traditionnelle québécoise. Mon nom est Marc Bauduc et chaque semaine, je vous convie à un rendez-vous dédié à la musique traditionnelle en toutes ses formes, que ce soit les nouveautés, les prestations en direct ou divers thèmes explorés au cours de l'émission. Les dimanches de 18h à 19h et en reprise les mercredis de 13h à 14h. Soyez au rendez-vous.
Rejoignez-nous au coin Sainte-Catherine-Saint-Loup à 19h tous les samedis pour un début de soirée riche en rire, réflexion et découverte. De Montréal jusqu'au lac Saint-Jean, Catherine Quesnel, Lou Deneau ainsi que leurs collaborateurs vous font revisiter les événements marquants de la semaine avec humour, philosophie, cinéma et féminisme.
Pour conclure en beauté, un invité spécial se joint à nous à chaque semaine. La fièvre du samedi soir, elle est chez CIBL 101.5 où l'actualité se décortique sous toutes ses facettes.
CIBL.
L'émission qui suit vous est offerte en rediffusion.